pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Dieu parle.
Dans l'Ancien Testament, alors je vais vous donner les références de notre réflexion. Première lecture, nous allons la faire dans le livre de Job, livre de Proverbes, pardon. On reviendra à Job ensuite. Alors, Proverbes, chapitre 22, verset 17. Voilà. Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Deuxième texte que nous allons prendre comme référence, Job, chapitre 33. Alors, Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà pour notre situation biblique. Pendant très longtemps, une grande partie de l'humanité a cru que Dieu parlait. Et puis, dans les deux derniers siècles, avec les philosophes, une montée de l'incrédulité, de l'athéisme, alors on a déclaré que Dieu ne parlait plus, il était mort. Voilà, on a dit Dieu est mort, il ne parle plus. Mais il y a un livre qui fait foi que Dieu parle encore. Et nous allons justement essayer de comprendre la manière dont Dieu parle. Vous savez, on l'a lu il y a un instant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce n'est pas que Dieu ait cessé de parler, c'est que l'homme a cessé d'écouter. Ou tout simplement cessé de prêter attention à ce que Dieu peut lui dire ou a pu lui dire dans tous les temps et à travers, en effet, l'histoire de notre humanité. Vous savez que dans la Bible, ça commence de cette manière, c'est que la création du monde émane, nous dit l'Écriture sainte, de la parole créatrice. Oui, c'est comme cela que les choses sont présentées, la parole créatrice de Dieu. Dans les premiers chapitres, ou les deux premiers chapitres, dans le livre de la Genèse, il est parlé de la création minérale, que Dieu a fait, le soleil, les étoiles, la terre. Il nous est parlé également de la création végétale, les arbres, les forêts, les fleurs, etc. De la création animale. Et puis, il a mis en quelque sorte le sceau à son génie créateur, eh bien, en donnant le souffle à celui qu'il avait décrété être le roi de la création, c'est-à-dire, eh bien, l'homme. Et tout cela procède de cette parole, puisque les premières lignes de notre Bible, ça commence comme cela, « Et Dieu dit ». Et vous savez que lorsque vous relisez ce contexte, vous verrez que ça revient plus de 10 fois, et Dieu dit. Et à chaque fois que Dieu dit, il y a une création nouvelle. On l'a cité d'un ordre ou d'un autre, hein, végétal, animal, humain, enfin, quoi que l'on... Ce que l'on peut retrouver dans ces premiers chapitres du livre de la Bible. Au cours des âges, Dieu n'a cessé de parler, figurez-vous. Oui. D'abord, il a parlé à un homme qui était le premier, il s'appelle Adam, et il lui a fait des promesses de bonheur, mais à ces promesses de bonheur, la réponse que l'homme a donnée, c'était un véritable échec, constatation d'échec. Ensuite, il a trouvé un autre homme dans l'histoire qui s'appelait Noé. Et Noé, il lui a donné des paroles de salut, figurez-vous. Alors vous connaissez l'histoire de l'arche, etc., etc., je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, il en a trouvé quelque temps après, longtemps après, il a trouvé un homme que nous connaissons bien de la Bible, il s'appelle Abraham. Et là, il a renouvelé ses promesses de bénédiction, mais pas seulement des promesses pour un homme, pour sa famille, mais des promesses de bénédiction universelle. D'ailleurs, Abraham a été appelé, et son nom veut dire, père d'une multitude. Ce n'était pas seulement ceux qui seraient sa postérité, mais toutes les nations de la terre. Et puis, dans un temps crucial de l'histoire, il a choisi un homme qui pouvait écouter, mais qui avait du mal à parler. Il s'appelle Moïse, vous connaissez l'histoire. Et là, il lui a donné des paroles tout à fait précises, qui remplissent plusieurs livres, c'est-à-dire... des paroles de conduite, des ordres, des commandements, des lois. Et pour un peuple particulier, pour l'instant c'est restreint, il parle à un peuple, c'est Israël. Et puis ensuite, il y a eu toute une succession d'hommes qui apparaissent dans le cours finalement de l'histoire, et particulièrement dans l'histoire d'Israël, ce sont les prophètes, à travers des prédictions, des révélations. Alors je cite quelques noms, il y a... Parmi tous ces gens-là, il y a Ésaïe, il y a Daniel, et puis il y en a bien d'autres. Alors, Dieu a parlé, mais Dieu parle. Tout ce que Dieu a pu dire autrefois aux hommes, se trouve tout à nouveau offert aux générations d'aujourd'hui à travers tout simplement une bonne nouvelle que l'on appelle l'Évangile. Ouais. Et Dieu donne une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que le mot évangile, veut dire justement bonne nouvelle. Et nous trouvons cela concentré dans un verset, dans le livre des Hébreux, c'est-à-dire pratiquement à la fin de notre Bible. Et il nous est dit simplement, je le rappelle, pour mémoire, il est dit, après avoir autrefois, jadis, dans les temps anciens, les plus reculés que nous puissions nous imaginer, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, par tous ces hommes dont nous avons cité les noms tout à l'heure, il nous est dit que Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Le Fils n'est autre que celui qui remplit la Bible entière et qui s'est révélé d'une manière extraordinaire, admirable, digne de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et nous savons que quand Jésus-Christ va venir dans le monde, il est présenté comme la parole vivante. Oui, la parole de Dieu incarnée. Celui qui, en effet, va tout simplement prendre la vie des hommes, se faire homme lui-même, et il va parler de la part de Dieu. Dieu se fait homme. Dieu se faisant homme pour parler aux hommes. C'est quand même beaucoup plus proche. Dans le temps... Dieu parlait du haut du ciel, d'une manière ou d'une autre. Il parlait par des anges aussi, j'ai oublié de le signaler. Mais là, il va parler par un homme qui est semblable à nous. Dieu descend et il va se faire homme, il va s'incarner, il va vivre parmi les hommes, il va avoir une vie comme tous les hommes et il va parler. Et on va voir si véritablement les hommes ont mieux compris de cette manière. Dans le prologue de l'évangile de Jean, qui est un évangile unique, certainement distinctif des trois précédents, Matthieu, Marc et Luc, il est donné justement, en quelque sorte, dans ce prologue, il est parlé de Jésus-Christ comme étant la parole vivante de Dieu. Une parole qui descend du ciel et qui communique la vie aux hommes. Nous avons déjà eu une parole qui nous a communiqué la vie par la création, mais maintenant... nous découvrons, à travers le message de l'Évangile, que ce n'est plus seulement une parole de création, c'est une parole de rédemption. C'est-à-dire où là, il y a une reprise en main de l'humanité, pour tous ceux, bien sûr, qui veulent le croire, et une nouvelle création va commencer sur les mêmes bases, parce que Dieu a dit. Et parce que Dieu dit et que les hommes croient, ils deviennent de nouvelles créatures. C'est une recréation, c'est une renaissance, c'est une nouvelle naissance. Si nous voulons être convaincus de la haute importance de la personne et des paroles de Jésus, nous allons écouter un homme qui ne l'a jamais connu, Jésus. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'appelle Moïse. Mais il a dit ceci. Il dira au peuple d'Israël, bien longtemps à la venue de la parole vivante, donc de la personne de Jésus, il dira au peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, il dira, mais le Seigneur notre Dieu, dans les temps à venir, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà. Ça, c'était des siècles et des siècles auparavant. Et parole qui s'est réalisée, puisque on sait très bien que ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit. On peut affirmer que Dieu tient parole. Et c'est important de marquer les choses de cette manière. Il y a le témoignage même de Dieu. On se souvient du baptême de Jésus-Christ, où une voix est descendue du ciel. On se souvient également de cet autre événement où Dieu parle du haut du ciel. C'est au moment de la transfiguration. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'est-ce qu'il nous est rapporté dans Matthieu 17? Écoutez bien. Voici, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la suite, devinez ce que nous déclare la suite. Dieu dit, écoutez-le. En d'autres termes, écoutez ce que Jésus a à nous dire, parce que ce que Jésus nous dit, c'est la parole de Dieu. La parole vivante de Dieu, la parole créatrice de Dieu, la parole rédemptrice de Dieu, la parole de salut qui vient de Dieu. Écoutez-le, tout simplement. Peut-être quelqu'un dira et objectera, mais Seigneur, parle-moi. C'est une bonne question. Seigneur, eh bien, adresse-toi à moi, dis-moi quelque chose. Alors la première manière la plus simple par laquelle Dieu parle aux hommes, nous l'avons déjà souligné il y a un instant, c'est la parole de l'Évangile. C'est quand même assez curieux parce qu'on entend Dieu nous parler à travers une lecture, où il parle comme tout simplement à travers la voix d'un homme, comme je le fais ce soir, en essayant le plus possible de reproduire, eh bien, le plus exactement, ces paroles de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Alors, c'est une révélation pour celui qui sait écouter. Peut-être certains pourront penser aujourd'hui, mais pourquoi y a-t-il encore des réunions d'évangélisation? Pourquoi y a-t-il encore des prédicateurs? Pourquoi y a-t-il encore des missionnaires qui courent le monde et qui font et qui disent ceci et cela? C'est parce que justement, précisément, la vocation et la mission reçue, c'est de parler. Paul le dira que lui-même avait reçu et c'est pourquoi il parle. Et c'est pourquoi il explique aussi aux gens. Contrairement à l'idée reçue ou l'idée répandue par laquelle Dieu serait muet ou même mort, on en a touché deux mots tout à l'heure, le témoignage de la Bible elle-même est formel parce qu'elle nous dit que Dieu parle. Il parle en tout temps, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la question n'est pas tant pour Dieu de se faire comprendre que pour nous, consentir à l'écouter. Et c'est bien le gros problème de l'homme. Dieu ne cesse de parler. Il parle en dehors de notre contexte qui nous réunit ce soir. Il parle de mille et une manières à des hommes. Il parle à des femmes, il parle à des vieillards, il parle à des enfants, il parle à des malheureux, peut-être davantage. Peut-être la grande difficulté, c'est que la voix de Dieu est bien allée partout, mais est-ce que les hommes sont aussi prêts et consentent à entendre ce qu'il a à nous dire? Vous savez que quand on suit l'Évangile, quand on lit l'Évangile, Jésus ponctuait souvent ses enseignements par « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a fait des oreilles à l'homme, eh bien pour que nous entendions ce qu'il y a quelque chose à dire, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il a particulièrement quelque chose à dire. Nos oreilles, elles servent à écouter nos semblables, à entendre de la musique ou autre chose, des discours, enfin bon, tout ce que l'on veut imaginer. Mais Dieu nous a fait des oreilles pour l'entendre lui-même, pour que nous puissions véritablement eh bien, entendre sa voix. Le problème se pose sous différentes formes. Premièrement, c'est l'inattention des hommes. Vous savez, on vit dans un monde et dans un siècle où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de préoccupations, d'occupations, beaucoup d'interférences. Il y a un manque total d'ouverture aussi dans le cœur de l'homme, puisqu'on pense et beaucoup croient que Dieu est mort. Alors, on n'écoute pas un mort, parce qu'un mort ne dit rien. Or, nous affirmons que Dieu parle encore. Et puis, il y a aussi dans les préoccupations un désintérêt à la voix de Dieu, parce que les hommes sont intéressés par tellement d'autres choses. Peut-être d'entendre des choses agréables. C'est pas que Dieu n'a pas des choses agréables à nous dire, mais il veut commencer par guérir le malade. Et pour guérir le malade, quelquefois, eh bien, il faut entendre le verdict, il faut entendre le diagnostic. Et personne n'aime entendre le diagnostic lorsqu'il est gravement atteint. On n'aime pas ça parce que ça nous trouble. Et pourtant, c'est le seul moyen pour pouvoir commencer un traitement, prendre conscience que nous avons besoin de soins et peut-être même d'une intervention beaucoup plus conséquente et que par la suite, eh bien, nous pourrons retrouver la santé. Et c'est ça ce que tu as à nous dire. Par-delà tout ça, naturellement. Et puis, il y a aussi quelque chose de catastrophique dans notre monde. C'est tout simplement la simple ignorance que Dieu puisse parler. Vous savez, nous sommes dans un monde d'obédience chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui lit la Bible, qui s'intéresse à l'Évangile, qui se pose la question, ou qui pose encore la question, « Mais Seigneur, si tu existes, parle-moi » Et vous savez, j'ai souvent entendu ce témoignage que tous ceux qui ont posé cette question à Dieu directement dans une simple prière du cœur, eh bien, nous en faisons partie, c'est pourquoi nous sommes là. Dieu n'a jamais manqué de nous entendre. Oui, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, eh bien, je me laisserai trouver par toi. Donc Dieu parle. Encore une fois de plus, Dieu parle. La simple ignorance, oui, ou tout simplement, eh bien, on n'y prend pas garde. Voilà, comme nous l'avons lu dans le livre de Job. On n'y prend pas garde pour entendre Dieu parler. Il faut parfois faire taire d'autres voix dominantes. Et les voix dominantes qui sont souvent à occuper l'espace du cœur de l'homme, de sa conscience, de sa réflexion, de son intelligence, eh bien c'est le doute, ce sont les craintes, ce sont les peurs, ce sont les agitations, ce sont les tumultes de la vie. Quelle société dans laquelle nous sommes et qui représente bien justement ce qui fait que, eh bien, on n'a ni le temps, ni l'intérêt, ni le besoin, enfin le besoin oui, mais on n'en sait pas plus. Où on ne veut pas en savoir plus, pour écouter Dieu tout simplement nous parler. Deuxième point, pour entendre Dieu parler, il faut écarter la parole humaine. Eh oui, il y a bien des choses qui sont des Jérichos barrés et barricadés, vous savez, dans l'entendement, dans la tradition, dans les rites, dans les usages, dans les religions, dans les philosophies, toute l'orchestration des hommes qui crie à qui veulent l'entendre que Dieu est mort, que Dieu ne parle pas, et que la Bible ça ne sert à rien, que l'Évangile, tout ça c'est une vieille histoire qui n'a plus cours pour les hommes de notre temps, l'orchestration des hommes. Et vous savez, ils le font en maniant bien la baguette pour séduire tous ceux qui sont prêts à écouter ce discours négatif et ce discours athée, tout simplement. Et à force d'avoir voulu interpréter Dieu, être son porte-parole, figurez-vous, il s'est passé une chose, c'est que la voix de Dieu s'est trouvée finalement couverte, elle a été déformée, elle a été édulcorée, elle a été dénaturée, et les hommes sont tombés en raison de cela dans le sectarisme, dans toutes sortes de philosophies, toutes sortes de choses à connotation humaniste, ou qui n'ont plus rien à voir avec cette aspiration et cette élévation que Dieu peut parler encore. Sectarisme, illuminisme, confusion. C'est bien ce que nous constatons aujourd'hui quand on pose la question aux gens. Ils nous disent, mais comment voulez-vous? Il y a tellement de religions. Quelles démonstrations les religions ont-ils donné, donnent-ils encore de la parole de Dieu? quand on voit ce qui se passe ces jours-ci, on se dit, mais c'est horrible et c'est terrible.
Ouais.
Quelle confusion. Un autre aspect des choses, pour entendre parler Dieu, il faut aussi reconnaître celui qui parle. Si quelqu'un me parle, si quelqu'un m'interpelle, si quelqu'un, me demande quelque chose, je vais au moins faire le geste de me retourner, d'identifier, de savoir qui me parle, si je le connais ou non. Et puis de pouvoir mesurer la crédibilité de cette personne, et surtout de ses paroles, de vérifier qui est cette parole, ce qu'elle va me dire, peut-être même dans la forme, le fond et la forme de ce qu'il a à me dire. Et une chose qui est certaine, c'est que ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu se fait toujours reconnaître à une chose, dont les hommes ne sont pas les détenteurs, le plus souvent. Dieu se fait reconnaître et il parle par la vérité. Par la vérité. Et ça, c'est important. Et il se fait reconnaître aussi par une parole de sainteté. Ou le crime, ou le mensonge, ou l'injustice, ou les cruautés. Toutes ces choses qui font partie de la parole des hommes n'ont pas cours chez Dieu. Certainement pas. Alors il faut cette intuition et cette perspicacité, cette perception spirituelle. Il faut avoir soif dans son âme pour que Dieu nous parle et pour surtout entendre ce qu'il a à nous dire. Il y a une femme remarquable parmi tant d'autres. Elle s'appelle Lydie. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au moment de l'histoire de la naissance de l'Église primitive, l'Église chrétienne, dans les premiers temps, dans les premières années. Cette femme, il nous est dit qu'elle écoutait un serviteur de Dieu qui s'appelait Paul, missionnaire, apôtre, pasteur, et il parlait de Jésus-Christ. Et il nous est dit qu'elle avait beaucoup d'intérêt, elle avait faim et soif d'entendre cette parole, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et il nous est dit que le Seigneur lui ouvrit l'intelligence pour qu'elle comprenne ce que Paul disait. Eh oui, on peut être là à lire la Bible, on peut être là à écouter un message de la Bible et rester stérile. Avoir les oreilles complètement fermées, parce que le cœur est fermé. Soif, soif profondément. Jésus dira cette parole que nous connaissons bien, je ne fais que rapporter ces textes et les partager avec vous ce soir. Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Et elles me suivent. Et elles suivent le bon berger parce qu'elles connaissent le bon berger. Parce qu'elles ont confiance dans la parole du bon berger. Il paraît que dans le métier de, enfin dans les professions pastorales, enfin pas la mienne, mais les bergers, hein, dans les montagnes ou ailleurs, eh bien, ils se font reconnaître, hein, par les brebis connaissent sa voix, ils ne suivront pas autrement. Hein. Regardez l'impression de Jésus, des paroles de Jésus sur les foules. Il nous est dit à un moment donné dans l'évangile de Matthieu, que Jésus, dans le sermon sur la montagne, précisément quand il a donné ce discours fleuve, eh bien, il nous est dit à un moment donné que les gens, le peuple, reconnaissaient Jésus comme parlant avec autorité et qu'il n'avait rien de semblable à tous ces scribes et ces pharisiens qui parlaient d'une manière très religieuse, peut-être avec des mots choisis naturellement, mais qui n'atteignaient absolument pas les cœurs et les consciences. Il parlait avec autorité. C'est pour ça qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus. L'âme qui cherche la délivrance ne s'y trompe pas. Écoutez, vous entendez cet homme qui dit à un moment donné, c'est Bartimée, il dira ces paroles, il est aveugle, mais il a besoin de Jésus. Et il entend que c'est Jésus qui passe, et il dira tout simplement, fils de David, aie pitié de moi. Et il a été entendu, c'est comme ça qu'il a pu recouvrer l'usage de ses yeux, entendre et reconnaître. Et puis pour entendre parler Dieu, il faut avoir certaines dispositions intérieures que je rappelle ce soir. La première de toutes, la plus grande de toutes, c'est la foi. Ouais. Il n'y a pas autre chose. Je ne parle pas de croyance. Je ne parle pas de sensibilité ou sensiblerie religieuse. Mais la foi. Et la foi, c'est une disposition primordiale. Et c'est la parole de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit ce qu'elle est la foi et ce que comporte la foi dans notre approche de celui qui parle, de celui qui est dans le ciel et qui parle, qui nous parle. Écoutez bien, or, sans la foi, Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Si quelqu'un me parle et je pense qu'il n'existe pas, qu'est-ce que vous voulez? Alors si je l'ai devant les yeux, je vais voir qu'il existe. Et justement, c'est toute la subtilité de ce monde spirituel, c'est que Dieu ne se fait pas voir quand il nous parle. Il nous fait voir ses œuvres, il nous fait voir ses miracles, il nous fait sentir son amour, il nous touche de sa compassion, il nous donne le réconfort, il nous donne tout ce dont nous avons besoin parce que nous sommes ses créatures, mais il nous parle quand même tout en restant invisible. Et c'est bien la grande différence. Et il n'y a qu'un sixième sens qui est pour moi, à mon sens, le premier de tous. C'est tout simplement la foi. Tout simplement la foi. Parce qu'il faut rappeler quand même, pour ceux qui écoutent, c'est que le monde est fait d'une dimension matérielle et il est fait d'une dimension spirituelle. La première création était matérielle. La deuxième création est d'une dimension spirituelle. Naître de nouveau. Une renaissance. Il y a un monde visible et un monde invisible. Dans ce monde visible, le Dieu de l'invisible nous parle. Et nous l'entendons si nous voulons. Mais par la foi. Parce que le meilleur moyen pour décoder le langage de Dieu, c'est simplement la foi. Si je ne parle pas le chinois ou je ne sais quoi, le vietnamien ou autre, ben je vais être complètement... C'est barbare pour moi, ce n'est incompréhensible. Eh bien, c'est pareil. Dieu nous parle. Et vous savez qu'il est polyglotte, hein, il parle toutes les langues de la terre. Hein. Il n'y a pas à se tracasser pour ça. Mais pour comprendre la subtilité spirituelle, eh bien, c'est tout simplement la foi. La foi intervient pour nous faire entrevoir les dimensions de l'invisible et du surnaturel. Dieu parle à ceux qui s'attendent à ce qu'il leur parle et croient ce qu'il dit, tout simplement. Premièrement, la foi. Mais la foi, on la met où ? Elle se trouve où, la foi ? Elle se trouve dans le cœur de l'homme. La foi, deuxième disposition primordiale, c'est le cœur. La compréhension des choses de Dieu ne se reçoit pas par l'intelligence et la raison seulement. Je tiens à le dire, je tiens quand même à donner cet adverbe. Seulement, les hommes depuis toujours se sont évertués à comprendre les mystères de la création, les mystères de Dieu, les mystères de l'invisible, les mystères de l'au-delà, de l'après la mort, etc., etc. Mais tout est passé par leur intelligence. Ils en ont écrit des livres. Ah, ils ont fait coups d'aile de langue. Ils ont fait des discours. Il y a eu des controverses sur la question parce que chacun pense à sa manière. Mais je dis bien et je le rappelle, c'est le cœur de l'homme qui est l'organe par lequel, finalement, eh bien, de cette relation, notre âme, notre cœur, Dieu ne s'explique pas. La théologie et la religion n'ont jamais donné une signification satisfaisante de Dieu. Au contraire. Parce que quand les hommes se sont employés à essayer d'expliquer Dieu, à expliquer la création, comme ils l'ont toujours fait et comme ils le font encore, hein, même à l'heure du télescope ou du microscope, hein, le microcosme ou le macrocosme, eh bien, ils ont tout confondu dans tout ça. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de confusion. Les hommes sont rentrés dans un labyrinthe parce qu'ils ont oublié, l'avertissement que Dieu leur avait donné. Tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les hommes se sont saisis de ce fruit. Et en se saisissant de ce fruit, ils se sont empoisonnés. Ils ont empoisonné leur cœur, ils ont empoisonné leur âme, ils ont empoisonné leurs yeux, leur conscience. Tout a été empoisonné. Et ils fonctionnent encore de cette manière parce qu'ils fonctionnent avec ce poison, qui était un poison, qui était un mensonge. Et vous savez de qui il vient. Dieu parle au cœur réceptif et ouvert et non à la tête. Dieu n'a jamais demandé d'abdiquer l'intelligence et la réflexion. Certainement pas. Des hommes de Dieu authentiques, mus et animés par l'Esprit de Dieu, ont écrit des choses sublimes. Il suffit de lire la Bible et puis peut-être d'autres à travers toute l'histoire des temps. Mais ce n'est pas par ici que ça se passe. C'est au niveau du cœur. Et on s'aperçoit que, chose étonnante, c'est que très souvent dans l'Évangile, on rencontre les malheureux, les pauvres, les affligés, ceux qui manquent d'amour, ceux qui aspirent à la justice, à la vérité, ceux dont les misères les ont rendus sensibles et ont rendu sensibles et ont fait une ouverture dans leur cœur. C'est particulièrement ceux-là qui ont été accessibles à la compréhension et à l'écoute de la parole de Dieu. Sermon sur la montagne, on y revient. Dieu parle. son langage n'est autre que celui que seul le cœur comprend, tout simplement, le cœur. Parce que notre cœur, dans cette misérable humanité qui est la nôtre, a besoin de consolation, il a besoin de réconfort, il a besoin d'amour, il a besoin de compassion. Écoutez ce que Dieu disait par la bouche d'un des plus grands prophètes de la Bible, Ésaïe, chapitre 57. Dieu s'exprime de cette manière, « Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » C'est ce que la parole vivante, comprenée par là Jésus-Christ, a dit dès l'ouverture de son ministère. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les prisonniers, pour affranchir ceux qui sont captifs, libérer, faire tomber les chaînes des opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Voilà. Alors, Dieu parle par la foi, enfin, c'est par la foi que nous pouvons avoir accès à sa compréhension. C'est avec notre cœur, mais aussi Dieu parle à la conscience. Il veut rappeler à toute créature, à sa créature, la réalité de son existence au travers de ses œuvres. Et Dieu a deux moyens, la nature et la création, qui devraient nous interpeller lorsque nous voyons, parce qu'il nous a donné des yeux aussi pour voir, des oreilles certes pour entendre ce qu'il a à nous dire, mais des yeux pour voir. Et après avoir vu toute cette manifestation de cette grandeur, de cette splendeur, alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons l'entendre parler. J'ai souvent reçu le témoignage de gens qui, s'approchant de Dieu, eh bien, avant peut-être d'avoir ouvert la Bible, de dire, eh bien, moi, j'ai déjà découvert Dieu lorsque je l'ai contemplé dans la beauté des paysages, de la mer, d'un coucher de soleil ou des choses comme ça. Parce que Dieu parle aussi à travers cela. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'une telle merveille soit le produit d'un accident. Le hasard, comme on dit si bien, comme on sait le dire et le rappeler. Dieu parle par le moyen des choses merveilleuses qu'il a créées. Oui. Écoutez ce que nous dit Paul, qui parlera beaucoup au nom de Jésus-Christ, dans Romains chapitre 1er, écoutez. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et il ajoutera ceci, « Mais les hommes qui ont des yeux, dont Dieu a pourvu à travers les sens. Comment se fait-il qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne saisissent pas ? Et il ajoutera ceci, mais ils sont donc inexcusables. Le premier livre de révélation de Dieu, c'est déjà la nature. Et celui qui surpasse tout, c'est la Bible, c'est le message de l'Évangile, dans la personne de Jésus. Dieu parle à la conscience des hommes dans les moments de bonheur, et l'on n'y prend pas garde, on l'a vu tout à l'heure. Vous savez, ce n'est pas souvent quand les gens sont heureux qu'ils se préoccupent de Dieu. Nous vivons dans des pays occidentaux où il y a quand même pas mal de bien-être, de confort, d'abondance. Eh bien, le monde ne s'est jamais autant déchristianisé. Ouais. Une défection extrêmement grande de la foi des gens. Et l'on n'y prend pas garde. Les temps de paix, les temps de succès, les joies de la vie, l'abondance sont autant les unes que les autres, eh bien, des bénédictions accordées par lesquelles Dieu veut attirer notre attention ou l'attirer à l'attention des créatures par le sentiment de reconnaissance et dire merci à celui qui est le donateur de tout cela. Et on s'aperçoit que c'est le contraire qui se produit. Plus les gens ont, moins ils identifient tout cela comme venant de Dieu. Et ils en arrivent à se substituer à Dieu en disant « Mais si j'ai réussi, si j'ai cette fortune, ou si j'ai cette position, si j'ai ceci et cela, mais c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence, à mon travail, à mes études, et ceci, à ma science, à ma sagesse. » Eh oui, mais Dieu parle à la conscience dans les moments de bonheur. Écoutez, dans le livre des Actes, il nous est dit ceci. « C'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en nous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en nous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. » Et à travers cela, qui reconnaît Dieu ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Vous savez ce que l'on est ? Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, soyons honnêtes et modestes. Notre vie c'est encore la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. On n'a rien d'autre. Notre souffle, c'est encore la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Et on a toujours remarqué, on n'a jamais autant constaté que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'ingratitude et d'indifférence à Dieu. Qui reconnaît finalement ce que Dieu est et ce que Dieu fait ? Conscience de Dieu à travers la nature, nous en avons parlé il y a un instant. Conscience de Dieu à travers les joies, mais il est aussi une chose importante dont Dieu veut nous faire réaliser et de laquelle il veut nous parler, c'est la conscience de nous-mêmes. Parce qu'on peut regarder tout ce qu'il y a autour de nous, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Mais par contre, il nous interpelle, et ça c'est le but de l'évangile, c'est le but de sa parole que nous lisons, la Bible. Eh bien, c'est de nous faire prendre conscience de nous-mêmes, et la prise de conscience de nous-mêmes s'appelle tout simplement, dans cette expression, notre état de péché ou notre état de perdition, si nous ne le connaissons pas, naturellement. La réalité de notre misère intérieure est finalement notre privation de son salut. Toujours le même Ésaïe, prophète de Dieu, qui parle au nom de Dieu pour le peuple d'Israël, mais qui nous parle autant pour nous. Et c'est Dieu qui parle. Et il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dieu est un Dieu rempli de compassion qui veut le bien de sa créature et qui veut le salut de sa créature. Mais on en revient toujours à la même chose, l'homme n'en veut pas. Comme dans cette parabole que Jésus nous laisse dans l'évangile de Luc, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Dieu n'a jamais pris les hommes de force. Il les convie, il les invite, il les sollicite, il les supplie, mais ne les oblige jamais. Et chacun, naturellement, prend position et se détermine. Dieu invite à la réconciliation, puisqu'il est question de notre état intérieur. Plus l'homme s'abaisse, plus la conscience de Dieu augmente en lui. Parce que le gros problème, c'est l'orgueil. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de changer de vie. Je suis suffisamment bien comme cela. Je suis brave, je fais des bonnes œuvres, je fais ceci et cela, je mets en avant mes mérites, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Ça s'appelle s'élever, ça. Mais on a compris. Parce que le principe, il est bien quand même dans l'évangile. Plus l'homme s'abaisse, plus sa conscience de Dieu grandit. Et là, il découvre les merveilles de Dieu et de sa parole. Et plus il s'élève, plus il perd la notion et l'écoute de Dieu. Plus un homme, finalement, s'enorgueillit de ce qu'il est, il n'aura pas cette conscience de Dieu puisqu'il pense qu'il est Dieu lui-même. Il finit par être à ses propres yeux un petit Dieu. Alors c'est le silence et c'est la rupture. Alors il y a un seul remède dont la Bible nous parle, parce que Dieu nous en parle, ça s'appelle la repentance. Écoutez ce que nous dit Ézéchiel, un autre prophète de l'Ancienne Alliance. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Pourquoi mourriez-vous ? Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. » Pour atteindre l'objectif qui sauvera l'homme de la perdition, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce que nous avons lu après. Il parle par des songes et des visions nocturnes. C'est ce que nous avons lu, le deuxième verset que nous avons lu tout à l'heure. Par des songes et par des visions nocturnes. Dieu nous parle par sa parole, mais il peut nous parler dans différentes situations de notre vie. Il peut nous parler le jour, il peut nous parler la nuit, il peut nous parler au travail, il peut nous parler lorsque nous sommes au volant de notre voiture, il peut nous parler dans toutes les circonstances, par des songes et des visions. Ça fait partie de cette atteinte surnaturelle, de cette expression surnaturelle de la parole de Dieu. Alors on se dit, on a été troublé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai bien vu, j'ai bien compris qu'il y a quelque chose. Ben Dieu nous parle aussi à travers cela. Il a parlé à pas mal de gens dans la Bible. Dieu parle par les circonstances et les événements de l'existence. Il donne l'orientation à notre vie, à notre insu. Quand on voit des faits comme Joseph qui va devenir premier ministre d'Égypte alors qu'il est en prison pendant 17 ans. Il n'aurait jamais eu l'idée. Il savait bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer parce que Dieu lui avait parlé en songe. Mais comment y parvenir? Oui. Dieu parle également à travers la maladie de Naaman pour qu'il se repente. Vous connaissez l'histoire. Il va parler à une jeune femme qui a connu beaucoup de détresse et beaucoup de drames dans sa vie. C'est Ruth, la Moabite, qui va devenir une véritable Israélite, une femme de foi, remarquable. Il va parler, par exemple, à Pierre, qui était un pêcheur de poissons du lac de Tibériade, pour qu'il devienne un pêcheur d'hommes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et vous dire tout ce que Dieu fait pour nous parler. Et il met le sceau à ses instructions. Alors il leur donne des avertissements. Et si l'homme voulait écouter, il parle et il nous donne des instructions. Dieu a institué des lois naturelles et des lois spirituelles. Et il ne faut pas les mépriser parce que ça ira forcément à notre encontre. Si lui a créé le souffle de notre vie, il veut aussi nous donner le courant du bonheur. Ce n'est pas un Dieu qui nous a amenés dans le malheur, c'est nous qui avons été nous-mêmes. Et nous le demeurons lorsque nous restons loin de la parole de Dieu, naturellement. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, dans notre texte de Job. L'orgueil, c'est le plus grand péché de l'humanité. Plus grand péché de l'humanité des hommes, qui a pour aboutissement tout simplement le refus d'entendre ou d'écouter Dieu parler. Je suis assez grand, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors ça, c'est de l'orgueil. Regardez les pharisiens et tous les gens de cet acabit qui croyaient tout connaître, qui pouvaient se promener là, à Jérusalem et dans le temple, les cols et montées de l'époque, et qui pouvaient se dire « Mais nous connaissons tout cela ». Et quand Jésus est apparu en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre bougre, ce pauvre prêcheur, prêcha du lac de Galilée là-bas, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ? Nous, nos docteurs, nos savants, nos hommes de loi, ils sont quand même beaucoup plus intelligents que celui-là qui sort de son misérable pays de Nazareth. Ah, l'orgueil. Oui, mais Jésus leur répondra. Il leur répondra d'une manière très habile, par une prière. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Merci Seigneur qu'il en est ainsi. Merci Seigneur. Et Dieu parle inlassablement. Pourquoi ? Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Afin de sauvegarder toute créature du jugement et de la condamnation qui s'abat sur le pécheur qui ne se repent pas. C'est ça la finalité. Il nous a créés et il veut nous sauver. Parce que cette première création s'est effondrée. Il y a eu une faillite catastrophique dans le jardin d'Éden. Et maintenant, eh bien, Dieu parle encore pour que nous puissions l'écouter, l'entendre et recevoir cet appel au salut qui passe par la repentance et nous faire échapper au jugement. Vous savez que Jésus le dira aussi dans l'évangile de Jean. Il dira « Mais je ne suis pas venu condamner et juger le monde ». Je suis venu précisément pour le sauver. Mais pour être sauvé, il faut écouter Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il faut écouter le verdict. Parce que nous sommes sous le coup d'une condamnation et bientôt d'une exécution, par le fait même que tous les hommes meurent. Mais si quelqu'un vient et plaide, si l'avocat, le véritable, le parfait avocat vient et qu'il nous dit que tous nos péchés sont absous, que quelqu'un a payé à notre place, que notre problème a trouvé sa solution, notre problème éternel a trouvé sa solution, alors à ce moment-là, il faut écouter le verdict de la grâce. Et le verdict de la grâce est comme un condamné qui normalement eh bien là, est déclaré absolument condamné au plus haut point, mais par un effet de la justice de Dieu qui passe par les hommes, eh bien, on va arracher la tête de ce condamné et il va y avoir une déclaration de grâce. Et ce condamné, s'il ne veut pas la croire, eh bien, il ne va pas la croire, mais il sera condamné. Il ira à la condamnation, il refusera la grâce. Et par contre, s'il l'écoute, c'est parce qu'il aura entendu cette parole et il y aura cru. Alors à ce moment-là, il sera sauvé. C'est simple. parce que Dieu est juste et il est miséricordieux. Dieu parle pour sauver, Dieu parle pour délivrer, Dieu parle pour tout simplement pardonner les péchés des hommes. Il parle pour nous guérir, il parle pour nous avertir, il parle de mille et une manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, entendons-nous cet appel. Voilà. Alors, ça passe par une simple voix d'homme ce soir. C'est vrai. Mais ce que je me suis efforcé de faire, c'est vous rapporter, non pas quelque chose que j'aurais mis en place, élaboré, mais en appuyant ces propos sur une personne, Jésus, et sur une parole, la parole de Dieu et la parole de Jésus. Ça change tout. Écoutez, écoutez-moi donc, dit Dieu, prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. La conclusion serait celle-ci, brève. La conclusion, elle se trouve toujours dans notre Bible, dans le livre des Hébreux, donc à la fin de notre Bible. Écoutez ce qu'il nous est dit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et il est précisé une chose, et ça nous concerne nous ce soir. Ça nous concerne tous ceux qui, demain, écouteront ce message, ou ce type de message, ce genre de message, liront la Bible, ou viendront peut-être écouter un prédicateur d'une façon ou d'une autre. Et il nous est dit par la suite, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car Dieu et interpelle, comme dans le livre des Proverbes que nous avons lu en première partie tout à l'heure, chapitre 22, « Je veux t'instruire, je veux te parler aujourd'hui, oui, toi. » C'est comme ça que c'est écrit dans notre texte. Donc, c'est pour celui qui écoute. Et la chose qu'il nous convient de faire, avec la grâce de Dieu, c'est de dire, « Eh bien, Seigneur, parle, parce que je t'écoute. » Je veux recevoir tes paroles et je veux serrer tes paroles sur mon cœur. Oui, je veux t'instruire, nous dit Dieu. Il y a une belle conclusion qui se trouve dans le psaume 34, où Dieu nous dit, avec vraiment beaucoup d'amour et de compassion, je t'instruirai, je t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te montrerai le chemin que tu dois emprunter, j'aurai les regards sur toi. Alors, c'est pour chacun d'entre nous. Oui, je veux t'instruire. Oui, toi, aujourd'hui, ce soir, en cet instant, nous allons prier maintenant. Quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que nous savons, Seigneur, que si le monde crie haut et fort que Dieu est muet, que Dieu ne parle plus, que Dieu est mort, hein, alors nous croyons, Seigneur, que tu as fait la démonstration ce soir, hein, tu as fait la démonstration à travers la parole de Dieu, la Bible, à travers l'Évangile, que tu continues à parler pour tous ceux et celles qui sont là, Seigneur, au fond de leur cœur, animés d'un désir profond de recevoir tes paroles. Oui, nous voulons être à l'image de cette jeune femme qui s'appelait Marie et qui était au pied de Jésus à entendre sa parole. Et il nous est dit qu'en effet, elle avait choisi la bonne part. Eh bien, Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Jésus. Écoutez la parole de l'Évangile. C'est la bonne part qui nous est réservée. Je te demande de nous bénir, Seigneur, ce soir, nous qui avons entendu cette parole. Qu'elle descende dans nos cœurs, au fond de nos consciences, dans nos esprits, dans nos âmes. Nous voulons te demander, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu nous fasses du bien. Et que nous puissions avoir encore, toujours, et encore davantage de foi, puisque c'est avec la foi, c'est avec notre cœur, que nous pouvons saisir, Seigneur, les merveilles de ta rédemption, de ton salut, et la grande promesse de la vie éternelle. Nous t'en bénissons et nous te remercions. Fais ton œuvre par le Saint-Esprit, parce que la parole sans l'Esprit, c'est une parole qui est morte, mais la parole avec l'Esprit, c'est l'éternité, c'est la puissance, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu, ce sont toutes ces merveilles qui sont réservées à ceux qui entendent ta parole. Et nous voulons être de ceux-là. Tu nous bénis ce soir, tu nous fais du bien, tu nous réconfortes et nous recevons ta parole dans notre cœur. Merci Jésus. Amen.